الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc le nouveau chapitre dont on va parler aujourd'hui, c'est le nombre de rak'at, le nombre de prières, le nombre d'unités de prières dans Qiyam al-Layl. Dans cette porte-là, on va parler de deux points. Le premier point, l'adad al-mustahab, le nombre recommandé de rak'at. Et l'autre point, on va parler le nombre permis. C'est-à-dire, est-ce qu'il est permis d'en faire plus ou moins ou non? La première, c'est on va parler du nombre recommandé. Qu'est-ce qui est connu de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le nombre de rak'at à faire? Et la deuxième, est-ce qu'il est permis d'en faire plus ou moins ou non? La sunna, et ce qui est recommandé, c'est de ne pas faire plus que 11 ou 13 rak'at, comme il a été rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va d'abord énoncer les hadiths dans ce chapitre. Awalan, hadith rapporté par le Bukhari, rahimahullah, Masrouq a dit, j'ai demandé à Aïcha radiallahu anha, par rapport à la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit 7 et 9 et 11 en dehors des deux rak'at qu'on fait avant la prière obligatoire de Fajr. Dans un autre hadith qu'on a demandé à Aïcha radiallahu anha sur la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, il ne rajoutait pas plus de 11 rak'at pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan. Il en faisait 4. Ne demande pas comment elles étaient belles et elles étaient longues. Et il en faisait 4 autres. Ne demande pas comment elles étaient belles et elles étaient longues. Puis il en faisait 3. Ce qui fait 11. Alayhi salat wa salam. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. La prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la nuit était de 13 rak'at. Zayd ibn Khalid al-Juhani a dit, je vais te dénombrer les prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il a prié 2 rak'at légères, puis 2 rak'at longues. Il a dit longues 3 fois, c'est-à-dire très longues. Puis 2 autres rak'at plus courtes que celles d'avant. Puis 2 autres rak'at plus courtes que celles d'avant. Puis 2 autres rak'at plus courtes que celles d'avant. Puis 2 autres rak'at plus courtes que celles d'avant. Puis il a fait le witr, la prière impaire. Voilà 13 rak'at. Ce que l'on peut retirer de ces hadiths, certaines versions ramènent 11, certaines versions ramènent 13. Certains ulama, ils ont dit 13, c'est en comptant les 2 rak'at sunna qu'il a fait après l'Isha. Donc là, dans le hadith de Zayd ibn Khalid al-Juhani, il les a comptés, les prières de nuit. Il parle de, à partir du moment où il s'est levé, parce qu'il a dit, il a fait 2 rak'at légères, comme c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis deux, il y en a 13 en tout. Et then, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'il y a des versions qui disent 11, des versions qui disent 13. C'est que son nombre habituel était 11. Et que c'est 13 en comptant les 2 rak'at légères qu'il fait quand il se réveille. Les 2 rak'at sunna légères, avec lesquels on ouvre les prières de nuit. Voilà ce qui fait les 13 rak'at du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait constamment dans la nuit. Taïf, une fois qu'on a bien déterminé que la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de 11 rak'at, ou 13 si on compte les 2 rak'at légères qu'il faisait dès qu'il se réveille avant d'enchaîner les 11 rak'at, la question se pose, est-ce qu'il est permis de rajouter sur ce nombre-là? Ce sujet, il fait beaucoup de problèmes. Il y a des gens, par exemple, à Mecca, parmi les étudiants de la science, ou parmi des gens qui suivent un cheikh parmi les savants de cette époque, qui est Cheikh l'Albani, rahimahullah, qui pour lui, t'as pas le droit de rajouter 11, plus de 11 rak'at. Alors, il y a qui suivent cet avis, et qui disent, t'as pas le droit. Et ils regardent tous les gens qui rajoutent plus que 11 rak'at, avec un œil de manquement. Si, par exemple, dans une mosquée, puis Tarawih, ils font 20 rak'at, ils vont dire non, ça c'est une bid'a. À la Mecque, quand il prie derrière les imams, à 11 rak'at, ils sortent. 10 rak'at, il sort. Il finit pas avec lui. Maintenant, on va voir est-ce que cette parole ou cet avis religieux, est-ce qu'il est fondé ou est-ce qu'il y a des avis plus fondés que cela en islam. Et nous, on suit le dalil. Il n'y a personne qui est préservé de l'erreur. Et nous, on pense, Allahu A'lam, que Cheikh Al-Albani, rahimallah, dans cette question-là, il aura atteint une récompense. et non pas les deux récompenses. Pourquoi ? Car la majorité des salafs, des pieux prédécesseurs, et de ceux qui les ont suivis parmi les ulama d'Ahl Sunna, ils voient tous que c'est permis de rajouter sur 11 rak'at. Al-Qadi Iyad a dit, il n'y a pas de divergence, qu'il n'y a pas un nombre déterminé dans la prière de nuit auquel on ne peut pas rajouter quelque chose ou diminuer. Mais la divergence, elle est dans le nombre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour lui. Quel nombre il a choisi pour lui dans la sunna? Ibn Abd al-Barr a dit dans le Tamhid, il a dit, il n'y a pas de divergence que la prière de nuit, elle n'a pas une limite dans le nombre. Et c'est une nafila. Celui qui veut en faire moins, il en fait moins. Celui qui en veut faire en plus, plus. Bon, ça, on a ramené juste deux paroles de ulama pour montrer qu'il n'y a pas de divergence auparavant parmi les pieux prédécesseurs sur cette mas'ala. Sans vous dire que même parmi les savants contemporains, à part Cheikh Al-Albani et ceux qui l'ont suivi parmi ses élèves, tous les autres savants sont d'un avis contraire. Comme les grands savants du Hijaz, eux, ils voient que tu peux rajouter à ce nombre-là, bien que le préférable, c'est de s'arrêter à ce nombre si ta prière, elle ressemble à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier hadith, qui est un hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière de nuit, c'est deux rak'at. Il n'a pas donné un nombre. Deux. Est-ce qu'il a dit deux jusqu'à que tu arrives à 10? Est-ce qu'il a mis une limite? Là, il a dit maintenant. Deux rak'at. Et si tu as peur que souh arrive, finis le witr par une rak'at. C'est le dalil l'awwal. Le deuxième dalil, qui est un hadith sahih. Quand la personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, je te demande t'accompagner au paradis. Il lui a dit, aide-moi contre ton âme bestiale en faisant beaucoup de prosternations, c'est-à-dire beaucoup de prières. Ça, c'est le deuxième dalil. Troisième hadith, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu ne te prosterneras pas pour Allah une prosternation sans que par cette cause Allah t'élève d'un degré et t'enlève un péché. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint, a encouragé de faire beaucoup de sujoud, beaucoup de rak'at. Et il n'a pas donné un nombre. Hada awwal shay. Thaniyan. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour lui ce nombre de rak'at, 13 rak'at, 11 rak'at et 13 si on compte les deux légères qu'il fait en se réveillant, ça ne veut pas dire que ça spécifie les hadiths qu'on a vus auparavant. Les hadiths qu'on vient de lire auparavant, ils sont généraux. Ils ne donnent pas de nombre. Ils se laissent libres. Au contraire, ils t'enjoignent à en faire le plus possible. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, ça ne montre pas que il faut limiter cette permission. Car dans Usul al-Fiqh, dans les bases de la jurisprudence, il a été déterminé que les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne viennent pas spécifier ses paroles. Ça veut dire, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, les prières de nuit c'est deux rak'at, c'est-à-dire pas de limite. C'est pas parce que lui il en a fait 13 que ça vient spécifier que la limite elle est de 13. Parce que sa parole, elle est pour la Umma, elle est pour tout le monde. Alors que ses actes, ça peut être pour lui comme pour la... c'est pour la Umma. Mais ça montre pas que c'est une limite obligatoire. De même que les paroles, elles sont devancées sur les actes. Tu peux pas te dire que c'est spécifique pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que ses actes, ça peut être pour tout le monde comme ça peut être pour le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une première règle. Deuxièmement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas interdit de faire plus de 11 rak'at. Pourtant, il nous a bien dit c'était lequel le meilleur qiyam. C'est le qiyam de Daoud alayhi sallam qui était dans le dernier tiers de la nuit. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit, la prière de nuit de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas déterminé un nombre exact de rak'at à faire pour cette prière. Mais il avait choisi pour lui de ne pas faire plus de 13 rak'at en Ramadan ou en dehors Ramadan. Mais il faisait des rak'at très longues. Il a dit, celui qui croit qu'il y a un nombre déterminé pour les prières de Ramadan, on ne peut pas en rajouter plus ni en diminuer, il s'est trompé. Une autre preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas ordonné de faire ce nombre dans le qiyam. Il n'a pas dit, faites 13 rak'at la nuit, faites 11 rak'at la nuit. Il a dit, maintenant, deux rak'at. Non. Ça, le cinquième point que je vais citer, c'est le plus important, et Cheikh l'Islam en a bien parlé, Ibn Taymiyyah. Il a dit quoi? Il dit, celui qui veut suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le nombre de rak'at qu'il a fait dans le qiyam, il a dit, il ne doit pas le suivre seulement dans le nombre, il doit le suivre dans la manière de prier aussi. S'il arrive à faire 11 rak'at longues comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très longues, alors là, la sunna pour lui c'est de faire long et 13 rak'at ou 11 rak'at. Mais si quelqu'un n'arrive pas à faire des rak'at très longues, et qu'en faisant 11 rak'at, il va faire le qiyam dans le dernier tiers de la nuit qu'une heure, alors que s'il faisait 20 rak'at, il va pouvoir se lever 3 heures ou 4 heures. Est-ce que pour lui, c'est mieux de se lever 3 heures ou 4 heures en prière, en rajoutant des rak'at, ou bien il va faire que 13 rak'at, il aura fait que le qiyam une heure? C'est quoi le mieux pour lui? De faire une prière plus longue. Sauf si il avait réussi à faire un qiyam de 3 ou 4 heures avec 13 rak'at, c'est-à-dire à faire des rak'at très longues, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idem, celui qui veut faire la sunna dans le nombre, il doit faire la sunna dans la manière de faire la prière. Celui qui fait des rak'at ou des qiyam qui sont plus courts, il y a juz ou lahu, il lui est permis de faire plus de rak'at pour pouvoir faire le qiyam plus longtemps. Naam. On n'a pas de divergence sur le fait que si il suit la sunna dans le nombre de rak'at et dans la manière de le faire, dans le temps que ça prend, c'est le mieux. Ça, il n'y a pas de problème. Et il a été rapporté dans le Musannif de Abd al-Razzaq que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a ordonné à Ubay ibn Ka'b et à Tamim al-Dari de présider les prières de Ramadan pour les gens avec 21 rak'at. Juste sur cet acte de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il y a certains muhaddithines qui voient que cet acte n'a pas une chaîne de transmission ou alors il n'est pas sahih. Alors que d'autres muhaddithines, après avoir étudié le sanad, la chaîne de transmission de ce hadith, disent qu'il a un sanad sahih, qu'il est juste et qu'il est bon. Et en le joignant avec le reste des dalils qu'on a vu avant, on voit que de toute façon il n'y a pas de contradiction, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas limité le nombre de rak'at à faire si quelqu'un veut en rajouter. إذا نتكلم عن مسألة أخرى قضاء قيام الليل. Le fait de rattraper les prières de nuit. يستحب لمن فاته قيام الليل وقد اعتاده لنوم أو مرض أن يقضي قيام الليل أن يقضيه نهارا قبل الظهر. C'est recommandé à celui qui a l'habitude de faire la prière de nuit de rattraper le nombre de rak'at qu'il a raté, si à cause du sommeil ou à cause d'une maladie il les a ratés, de les rattraper dans la matinée entre le lever du soleil, c'est-à-dire après que le soleil soit bien levé, avant salat al-dhuhr. Fa'an Aisha radiallahu anha, وهذا الحديث حديث صحيح. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. Si le prophète صلى الله عليه وسلم, comme elle a dit Aïcha رضي الله عنها, venait à manquer une de ses prières de nuit pour une maladie ou pour لوجع أو غيره, pour une maladie ou pour autre chose, ou pour une douleur ou pour autre chose, alors il rattrapait dans la journée 12 rak'at. 12 rak'at. Si vous vous rappelez bien, on avait dit que le witr, si quelqu'un rate le witr dans la nuit, comment il va le rattraper dans la journée? Shaf'an. Il le rattrape shaf'an. Par exemple, s'il se faisait le witr 3 rak'at, il veut les rattraper dans la journée, il les rattrapera 4 rak'at. Par exemple, il s'est endormi, il n'a pas fait le witr. Salat al-subh, elle est rentrée. Le fajr, il est rentré. Là, il sort les witr. Il ne fait pas le witr. Il va faire salat al-fajr. Et après, quand le soleil sera levé d'une lance, il pourra rattraper le witr qu'il n'a pas fait dans cette nuit. Shaf'an. S'il avait l'habitude de faire le witr 3 rak'at, il fera 4 rak'at. S'il avait l'habitude de faire 5 rak'at, il fera 6 rak'at. Wahakada. Et s'il avait l'habitude de prier la nuit en plus du witr, et en tout, par exemple, il faisait 7 ou 9 rak'at, alors il fera 10 rak'at ou 8 rak'at pour rattraper. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي ذلك فضيلة. Il y a une vertu dans le fait de rattraper ce qu'on n'a pas fait la nuit le matin. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل كتب له كأنما قرأه من الليل والحديث وحديث صحيح. Donc Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'est endormi sur la partie de Coran qu'ils lisaient la nuit. Et eux, comme on vous a expliqué, ils lisaient le Coran la nuit dans la prière. Ou alors, s'il n'a pas lu une partie de ce Coran, et qu'il l'a lu, qu'il l'a rattrapé dans la matinée, avant la prière de Dhuhr, alors ce sera écrit pour lui comme s'il l'avait fait dans la nuit. Allah Ta'ala lui écrira comme s'il l'avait fait dans la nuit. Walhamdulillah, hadhihi ni'matullahi tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, que quand l'être humain a une maladie ou une fatigue, ça lui arrive de ne pas pouvoir tenir sa prière de nuit qu'il avait l'habitude de faire. Il la rattrape dans la matinée, Allah lui écrit comme s'il a prié dans la nuit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taïm. Maintenant, on va parler du qiyam de Ramadan. Puisqu'on a parlé de la prière de nuit, on va parler de la prière de Tarawih, comme on appelle Tarawih. Et j'aimerais qu'on écoute bien cette mas'ala, cette question, le qiyam Ramadan. Car beaucoup de choses, on croit que ça fait partie de la sunna. On voit tout le monde faire, on regarde à la télévision, ils le font. On croit que c'est ça le dîn. Et là, quand on va écouter le hadith et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir qu'il y a certaines choses, ce n'est pas comme on croyait. La prière de Tarawih, c'est une sunna très recommandée pour les hommes et pour les femmes pendant Ramadan. Elle peut se faire à la maison, comme elle peut se faire jama'atan fil masjid, et on va voir après qu'est-ce qui est préférable. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire en disant, celui qui se lève pendant le mois de Ramadan, imanan wa ihtisaba, avec foi en Allah, et en attendant la récompense d'Allah, en attendant la récompense sincèrement que d'Allah, Allah lui pardonne ses péchés passés. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avec ses compagnons, radiallahu anhum, certaines nuits, et il ne l'a pas fait constamment de peur que ce soit obligatoire, et ce serait trop dur à tenir. Aïcha radiallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à la mosquée, il a prié. Les gens ont prié derrière lui. Le deuxième jour, il est sorti, il y avait beaucoup plus de gens qui ont prié derrière lui. Le troisième jour, il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient à l'extérieur, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas sorti. Le matin, quand il est sorti pour la prière de l'Fajr, il leur a dit, j'ai vu ce que vous avez fait ces dernières nuits, c'est-à-dire vous avez prié derrière moi, en groupe. Il a dit, la seule chose qui m'a empêché de sortir, c'est de peur que ça devienne pour vous obligatoire. Et ça, c'était pendant Ramadan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cela, a délaissé, il ne l'a plus fait, jusqu'à qu'il soit décédé, alayhi salatu wassalam. Et le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Taïb, ça parle de la prière de nuit pendant Ramadan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait à la mosquée, jama'atan, avec les compagnons, radiyallahu anhum. Mais il ne l'a fait que de nuit, après il ne l'a plus fait, pour pas que ça devienne obligatoire. Donc ce hadith de Abu Dharr, où Abu Dharr raconte qu'on a jeûné avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, il n'a pas prié pendant le Ramadan. Il n'a pas prié pour nous jusqu'à qu'il reste 7 jours de Ramadan. Et il a prié avec nous au début de la nuit jusqu'à qu'on arrive au tiers de la nuit. Puis, il ne s'est pas levé la quatrième nuit. Il s'est levé le lendemain, donc c'est-à-dire qu'il a fait ça 3 nuits de suite et pas la quatrième. Puis, il s'est levé la nuit d'après, jusqu'à la moitié de la nuit. On a dit au messager d'Allah, pourquoi tu ne nous pries pas jusqu'au matin ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui prie avec l'imam, jusqu'à que l'imam finisse, ça lui sera compté comme s'il a prié toute la nuit. Et ça, c'est une preuve pour ceux qui disent qu'on ne prie pas le tarawih à la maison, à la mosquée, mais à la maison. Ça va ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous montre bien que le fait de prier avec l'imam et de rester avec lui jusqu'à qu'il finisse salat, c'est comme si tu avais prié toute la nuit. Puis, le sixième jour, il ne s'est pas levé, et il s'est levé le septième. Il a appelé sa famille pour appeler les gens, jusqu'à qu'on ait eu peur de rater le sahur, c'est-à-dire le dernier repas du matin. Donc dans ce hadith, il y a plusieurs choses à retenir. Awalan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié avec les musulmans à la mosquée en groupe. Deuxièmement, dans les deux hadiths qu'on a vus auparavant et maintenant, est-ce qu'il y a un nombre de rak'at qui est cité ? Il n'y a pas de nombre de rak'at qui est cité. Troisième leçon à en tirer, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé de faire la prière avec l'imam jusqu'à qu'il finisse. Car il a dit, la personne qui prie avec l'imam jusqu'à qu'il finisse, il lui sera inscrit comme s'il a prié toute la nuit. Donc tout cela, ça prouve quoi ? La prière de Ramadan, c'est recommander le tarawih de la faire avec l'imam à la mosquée. Et il y a plus de récompenses, car la récompense, si on finit la prière avec lui, c'est de gagner la récompense comme si on avait prié toute l'année. Dans le hadith qui est rapporté par le Bukhari et le Muslim, Omar ibn Zubayr a dit qu'après la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait dans Ramadan avec eux, il ne l'a plus jamais fait, de peur que ce soit obligatoire. Donc il l'a fait une seule année, sallallahu alayhi wa sallam. Après, il ne l'a plus jamais fait. Après, Abu Bakr ne l'a pas fait. Au temps d'Abu Bakr, ça ne s'est pas fait. 2 ans. Abu Bakr, sa khilafa n'a duré que 2 ans. Après, une partie de la khilafa de Omar ne s'était pas fait. Jusqu'à qu'un jour, Omar ibn Khattab, il est entré à la mosquée. Il a trouvé un groupe qui priait avec 2. Un autre groupe qui priait avec 5. Il a dit, là où Jama'an al-Nas, pourquoi on ne va pas les réunir? 1, 2 ici, 5 là-bas, 3 ici. Et il les a réunis, et il n'a pas fait quelque chose de nouveau en islam. Il a revivifié, il a remis en place une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà fait. Ce n'est pas comme certains mubtadi'a, certains innovateurs, ils disent, ah, regarde, Omar, il a inventé une ibadah. Alors on a le droit, nous aussi, d'inventer une ibadah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et il a expliqué pourquoi il l'a délaissé. Il l'a délaissé de peur que ça devienne obligatoire. Sinon, il aurait continué, alayhi salatu wa salam. Donc, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, n'a fait que quoi? N'a fait que remettre en place ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait délaissé, de peur que ça devienne obligatoire. Il a vu le maslaha, il a vu que les gens aient pris, ils sont dispersés, il a dit, on va les réunir sur un imam. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a fait pendant Ramadan. Et c'est à partir de Omar que cette sunna, elle est redevenue vivante, et depuis ce temps-là, dans toutes les villes musulmanes du monde et dans tous les pays où il y a des mosquées, dans toutes les mosquées du monde depuis Omar ibn Khattab, il y a Tarawih chaque Ramadan jusqu'à aujourd'hui, walhamdulillahi rabbil alamin. Donc c'est Omar ibn Khattab qui a fait vivre cette sunna, et même quand il l'a fait, il a dit, quelle bonne innovation que ça. On a besoin de parler un peu de ce point là quand Omar a dit, quelle bonne bid'a que c'est cette chose là Alors, il y a certains aujourd'hui qui vont dire, t'as vu? C'est pas kullu bid'atin dalala. Toutes les bid'a, c'est pas un égarement. Regarde, Omar l'a dit, ni'matul bid'a. C'est une bonne bid'a. Donc, dans les bid'a, il y a des bonnes et des mauvaises bid'a. Toutes les paroles qu'on a en arabe, elles ont un sens dans la langue arabe, et elles ont un sens dans la langue religieuse. Comme par exemple, as-salat. En arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire la dua. À l'époque, tu dis, je vais faire salat, pour lui, tu vas faire dua. C'est ça, salat. En arabe, salat, ça veut dire dua. Walakin, elle a pris un ma'na, elle a pris un sens shara'i, un sens religieux. Quand tu dis je vais faire salat, c'est-à-dire je vais faire tous ces actes, depuis le takbir jusqu'à le taslim, tous ces actes et toutes ces paroles spécifiques pour Allah, c'est ça, salat. Kadhalik al-bid'a. Al-bid'a, en langue arabe, ça veut dire quelque chose de nouveau. Pas dans le mauvais sens, dans le sens religieux, c'est-à-dire une nouveauté dans l'islam. Dans le sens, on a refait quelque chose de nouveau qui était délaissé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait dit « Kullu bid'atin dalala » et « Fiddin » toute nouvelle adoration dans la religion. Sinon, c'est-à-dire aujourd'hui, tu ne pourrais pas mettre certains, par exemple, les tissus qui n'existaient pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne pourrais pas prendre l'avion si tu dis toute innovation est un égarement dans la vie de tous les jours. Et then, Omar ibn al-Khattab, il n'a pas inventé une adoration. Il n'a pas fait une bid'a. Il a fait que remettre en place ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà fait. Hada huwa al-farq. C'est pas aujourd'hui quelqu'un il vient, il nous dit, c'est une bonne bid'a, ça, on va faire une nouvelle bonne bid'a. Une fois par mois, on fait le liqa shahri, on fait la rencontre du mois, après on fait un qiyam en jama'a. Là, hadi bid'a munkara. Parce que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas délimité un temps ou un moment pour qu'on fasse des qiyam en jama'a, à part Ramadan. Première chose à répondre, c'est que déjà, cette chose, elle existait déjà. Deuxième chose à répondre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai al-rashidin al-mahdiyin » Donc ça montre que ce qu'il a mis en place, ce n'est pas une bid'a. Mais il n'a fait que refaire vivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idan, ma hiya adad al-raka'at? Combien de raka'at on fait dans le tarawih? La première des choses, c'est qu'on a vu que dans les prières, dans les hadiths qui sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le nombre de rak'at qu'il a fait pendant Ramadan, il ne parle pas d'un nombre précis. C'est pour ça que les savants, ils ont divergé sur le nombre de rak'at à faire dans le Tarawih. Certains, ils ont dit 11 rak'at. Donc là, c'est le hadith qui est rapporté par l'Ibn Malik dans le Muwatta, que Omar ibn Khattab, il a ordonné à Ubay ibn Ka'b et Tamim al-Dari de prier 11 rak'at pour les gens, et il lisait des longues sourates, les sourates mi'in. C'est toutes les sourates qui ont plus de 100 versets. Il disait que c'était tellement long qu'on s'appuyait sur des bâtons. Le deuxième avis, on fait 20 rak'at sans le witr. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants, comme l'imam Sofiane al-Thawri, Ibn al-Mubarak et l'imam Shafi'i. Ça a été rapporté ici de Omar et de Ali, radiallahu anhum. C'est pour ça qu'en fait, il y a divergence entre ces deux versions. Celle qui dit 13 rak'at et une autre qui dit qu'il a demandé à Ubay ibn Ka'b et à Tamim al-Dari de faire 20 rak'at. Dans le troisième avis, ça c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah, il a dit on fait 39 rak'at avec le witr. Pourquoi il a choisi cet avis? Car Daoud ibn Qays a dit, j'ai rencontré les gens à Médine au temps de Omar ibn Abdul Aziz, le petit-fils de Omar ibn Khattab, l'arrière-petit-fils de Omar ibn Khattab qui était un miel juste pour les croyants et les musulmans. Il a dit, je les ai rencontrés à Médine au temps de Omar ibn Abdul Aziz, il faisait 36 rak'at plus 3 rak'at pour le witr. 39. Et il y a un autre avis qui dit 40 rak'at et fait le witr avec 7 rak'at. C'est-à-dire 47. Donc Al-Hassan ibn Abdullah a dit, Abdurrahman ibn al-Aswad faisait 40 rak'at pour nous pendant Ramadan et il faisait le witr avec 7 rak'at. Il a été rapporté de l'imam Ahmad ibn Hanbal qu'il priait pendant Ramadan un nombre de rak'at qu'on ne peut pas compter. Et donc tous ces avis des ulama montrent bien que parmi les pieux prédécesseurs, ils ne voyaient aucun problème à rajouter plus que 11 rak'at. Regardez l'imam Ahmad. Et je vais finir avec cette parole-là, Inch'Allah. Et là, retenez bien cette parole de Cheikh l'Islam qui va dans le même sens que ce qu'il avait dit auparavant. Tout ça, on peut le faire. Taïeb, comment tu choisis alors combien de rak'at tu fais? Et c'est là qu'il va nous donner des conseils. Qu'il fasse l'une de ses façons de faire pendant Ramadan, il aura bien fait. Et le mieux, c'est différent par rapport à la situation de chaque prieur. Donc si les prieurs, ils peuvent faire des longues prières, alors le mieux, c'est qu'ils fassent 13 rak'at, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, et c'est le mieux. Il a dit, mais s'ils ne supportent pas des longues prières, 20 rak'at, c'est le mieux. Et c'est ça que la plupart des musulmans faisaient dans les pays musulmans auparavant. Car c'est un juste milieu entre 10 et 40. Et s'il fait 40 rak'at ou plus, c'est permis. Et il n'y a aucune de ces manières qui est détestable. Et il a dit, il y a plus d'un imam parmi les grands imams des musulmans et les grands savants qui ont dit cette parole-là, comme l'imam Ahmed, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala. Et celui qui croit que le nombre de rak'at à faire pendant Ramadan, on ne peut pas faire ni plus ni moins du prophète, ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est trompé. Donc on a bien précisé, si quelqu'un peut faire autant de rak'at que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la même manière qu'il les a fait, c'est ça la sunna, c'est le mieux. Voilà, s'il ne peut pas faire des longues qiyam et des longues lectures, c'est mieux qu'il fasse plus de rak'at pour pouvoir faire la prière plus longtemps dans le temps. Voilà, en résumé du résumé, tout ce qu'on vient de dire sur le nombre de rak'at. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de shabab, beaucoup de nos jeunes, ils ont l'esprit fermé. Ils croient qu'ils suivent la sunna alors qu'ils sont muta'assibim, qu'ils sont bloqués sur un madhab ou sur un avis d'un savant, alors que des centaines et des centaines de savants de l'islam auparavant et aujourd'hui, ils ont dit le contraire. Et ils ont des dalils. S'ils voient que tu ne fais pas de cette manière-là, pour lui, tu es égaré. Et il n'y a que les ignorants qui voient des bid'ahs partout. Parce qu'en fait, il connaît peu de choses. Comme il connaît peu de choses, il croit que tout ce qui est contraire à ce qu'il connaît, c'est bid'ahs. Mais une personne qui a une grande connaissance, il sait faire bien la différence entre la sunna et la bid'ah. On finit avec une chose. Après 4 rak'at, c'est une sunna de se reposer un peu et de reprendre 4 rak'at dans le tarawih. Comme Aïcha l'a dit, radiallahu anha, sauf qu'il n'y a aucun dhikr à dire entre ces 4 et ces 4. Je vais parler de deux dernières questions, Inch'Allah. Le fait de se lever avec l'imam jusqu'à qu'il finisse, même s'il fait le witr. On fait le witr avec lui. Et même si on veut prier dans la nuit, on priera dans la nuit. Deux rekats, quatre rekats, huit rekats. On l'a déjà dit ça, on vous l'avait déjà expliqué. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait prié le witr et après il a fait deux rekats, juste après le witr. Pour montrer que c'était permis de prier après le witr. Et donc, on prie avec l'imam jusqu'à qu'il fasse le witr, parce que là on a une raison de faire le witr tôt. Parce qu'on veut faire la salat avec l'imam jusqu'à qu'il finisse. Pour gagner la récompense d'avoir prié toute la nuit. On va finir avec une dernière mas'ala. Est-ce que ça fait partie de la sunna de finir le Coran dans Taraweeh? Il n'y a rien qui est rapporté qu'il faut finir le Coran dans Ramadan. Mais l'imam, il doit lire ce qui n'est pas trop lourd à supporter pour les gens. Par exemple, nous regardez maintenant, Ramadan, il va être de plus en plus tard le soir, dans la nuit. Pour faire quelque chose qui n'est même pas sunna, on va obliger les gens à rester des heures alors qu'ils ne sont pas capables de supporter. Juste pourquoi? Parce qu'on a l'ada, on a l'habitude de faire comme ça. Tout le monde le fait, il faut qu'on le fasse. Alors que ce n'est pas sunna de finir le Coran, de faire une khatma dans Ramadan, en jama'a. Si les gens ils supportent que tu pries pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure, tu fais une demi-heure, trois quarts d'heure, salam alaikum, tu t'arrêtes. Autre chose, les gens pour pouvoir finir le Coran, ils lisent plus le Coran comme la sunna l'a dit. De lire le Coran verset par verset. Non. La sunna, c'est que tu profites dans la prière. Tu médites. Tu te concentres. Tu écoutes les paroles d'Allah. Tu lis une ayah. Tu fais une pause. Tu lis une ayah. Tu fais une dua. Tu te mets Allahumma ajirna minan nar. Tu lis une ayah. Comme ça. Comme la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. Et de même, des fois, nous kallif anfusana de se lever au dernier tiers de la nuit. On refait un autre tarawih au dernier tiers de la nuit juste pour pouvoir finir. Alors que la sunna, et même Omar il l'a fait, c'est de se lever au début de la nuit avec le jama'a, point à la ligne. On va. Après, celui qui veut se lever en plus tout seul, il se lève tout seul. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alameen.